La guerre, il y a toujours quelque part un désir d'espace vital qui la motive. Le Bachar Teg. Murbella observait les combats sur jonction avec un détachement apparent qui ne reflétait nullement ses sentiments. Elle se tenait parmi un groupe sélectionné de rectrices au centre de commandement de son non-vaisseau, toute son attention dirigée vers les projections relayées à partir des œils comme du sol. Les combats faisaient rage sur toute la planète. Explosion de lumière du côté nuit, éruption grise côté jour. L'engagement principal supervisé par Teg concernait la citadelle, édifice géant de la guilde à la périphérie duquel avait été ajoutée une tour. Bien que les signaux vitaux d'Odrad eussent cessé de leur parvenir depuis quelque temps, ses premiers rapports avaient confirmé que la très honorée matriarche se trouvait bien là. La nécessité d'observer à distance aidait Murbella à conserver son détachement, mais elle n'en sentait pas moins l'excitation du moment. Nous vivons des temps intéressants. Le vaisseau où elle se trouvait portait une cargaison précieuse. Les millions de vies récupérées de Lampada étaient en ce moment partagées et préparées à la dispersion dans des appartements habituellement réservés à la mère supérieure. La révérende mère sauvage, avec son fardeau de mémoire seconde, dominait ici toutes les priorités. Un véritable œuf d'or. Murbella songeait à toutes les vies que l'on était en train de risquer dans ces appartements du vaisseau. Il fallait se préparer au pire. La pléthore de volontaires et la menace représentée par les combats sur jonction diminuaient la nécessité de recourir au poison d'épices pour amorcer le partage, réduisant ainsi le danger. Tous à bord avaient conscience du tout ou rien représenté par le pari d'Odrad. Tous reconnaissaient le péril de mort imminente. Le partage était nécessaire. La transformation d'une révérende mère en série de mémoires transmises de sœur à sœur au prix d'un grand danger n'était plus auréolée de mystère aux yeux de Murbella, mais les responsabilités que cela impliquait continuaient à l'impressionner. Le courage de Rebecca et celui de Lucille forçaient l'admiration. Des millions de vies mémoires, toutes concentrées dans ce que la communauté des sœurs appelait « extremis progressiva », deux par deux d'abord, puis quatre par quatre et 16 par 16. Jusqu'à ce que chacune les contienne toutes, et qu'une seule fût en mesure de préserver la précieuse accumulation. Ce qu'elles étaient en train de faire dans les appartements de la mère supérieure avait un peu les mêmes connotations. Le concept n'effrayait plus Murbella, mais il ne lui était pas encore devenu familier. Les paroles d'Odrad étaient un réconfort. Dès que vous avez pris votre place dans le train de la mémoire seconde, tout le reste s'insère dans une perspective qui vous paraît totalement familière, comme si vous la connaissiez depuis toujours. Murbella se rendait compte que Teg était prête à donner sa vie pour la défendre de cette conscience multiple que constituait la communauté des sœurs du Bene Gesserit. Puis-je faire moins ? Teg n'était plus tout à fait pour elle une énigme. Il demeurait un objet de respect. La présence intérieure d'Odrad renchérit sur ce point en lui rappelant ses exploits. Puis, je me demande comment je m'en tire en bas. Demandez donc. Le commandement Com répondit : Pas de nouvelles, mais l'émission a peut-être été bloquée par un bouclier énergétique. Ils savaient qui posait en réalité la question, cela se lisait dans leur visage. Ella Odrad. Murbella observa de nouveau les combats de la citadelle. Ses propres réactions la surprenaient. Elles étaient colorées par un dégoût historique devant les répétitions des absurdités de la guerre, mais également par une exubérance que renforçaient ses talents Bene Gesserit nouvellement acquis. Les forces des honorés matriarches disposaient apparemment d'un excellent armement et les boucliers antithermiques de Teg étaient soumis à rude épreuve. Cependant, au moment même où elle l'observait, le périmètre défensif s'effondra. Elle entendit le grondement sourd du disrupteur géant conçu par Idaho qui se forçait un passage en cahotant parmi de grands arbres, en enfonçant les défenses à droite et à gauche. La mémoire seconde lui fournit une comparaison d'un genre particulier. Cela ressemblait à un cirque. Des vaisseaux se posaient, dégorgeant leur cargaison humaine. Sur la piste centrale, la reine araignée, dans un numéro que nul œil humain n'a encore jamais contemplé. La présence d'Odrad émit un sentiment d'amusement. Que dites-vous de cette proximité entre sœurs ? Es-tu morte en bas, Dar ? C'est plus que probable. la reine araignée se sera retournée contre toi dans sa rage. » Les grands arbres projetaient leurs ombres en travers de la ligne d'offensive choisie par Teg. Leur couvert était une tentation. Cependant, elle vit qu'il donnait l'ordre à ses hommes de faire un détour, ignorer les avenues tentantes, rechercher les accès difficiles et les mettre à profit. La citadelle se dressait au milieu de vastes jardins botaniques, d'arbres étranges et de buissons encore plus étranges, mêlés à des plantations prosaïques. Le tout semblait avoir été dispersé au hasard par la main d'un enfant gambadant. Murbella trouvait séduisante la métaphore du cirque. Elle donnait de la perspective à tout ce qu'elle voyait, les annonces en fanfare dans sa tête. Et là, nos animaux danseurs, défenseurs de la reine araignée, tous parfaitement dressés à obéir. Sur la piste principale, le clou de cette représentation, animé par notre monsieur loyal, Miles Teg. Ses partenaires vont bientôt vous émerveiller par leur mystérieux talent. Il y avait des aspects qui évoquaient les combats du cirque dans la Rome antique. Murbella apprécia la comparaison. Cela donnait plus de valeur au spectacle. Les tours mobiles remplies de soldats en armure se rapprochent. Le contact se fait. Les flammes jaillissent. Les cadavres pleuvent. Mais il s'agissait ici de vrais cadavres, de vraies morts et de vraies souffrances. Les sensibilités Bene Gesserit la forçaient à déplorer ce gâchis. C'est donc ainsi que cela s'est passé pour mes parents quand ils ont été pris dans cette rafle. Les métaphores de la mémoire seconde disparurent alors pour laisser la place à une vision de jonction telle qu'elle devait apparaître en ce moment à Teg. Violence sanguinaire, familière aux mémoires et cependant nouvelle. Elle vit la progression des attaquants. Elle les entendit. Une voix féminine, que l'hystérie rendait distincte au-dessus du reste, cria « Ce buisson m'a parlé !» Une autre voix, masculine cette fois. Impossible de dire où ça a commencé. Cette substance gluante vous brûle la peau. Murbella entendait des bruits de combat de l'autre côté de la citadelle, mais un calme étrange s'était établi autour de la position occupée par Teg. Elle vit ses troupes, progressant par bonds à la faveur des ombres, se rapprocher de la tour. Elle aperçut Teg sur les épaules de Stregi. Il leva un instant les yeux vers l'impressionnante façade dont il ne se trouvait qu'à 500 mètres. Murbella sélectionna une projection qui lui donnait le même angle de vue que lui. Il y avait des mouvements derrière les carreaux des fenêtres. Où étaient donc les mystérieuses armes de la dernière chance que les honorés matriarches étaient censés posséder? Que va-t-il faire maintenant? Teg avait perdu son module de commandement dans une explosion laser à la périphérie de la zone des combats. Le module était couché sur le flanc, à quelque distance derrière lui, à demi caché par des buissons dont certains achevaient de se consumer. Avec le module, Teg avait également perdu son tableau com, mais il conservait son terminal en forme de fer à cheval argenté, qui n'avait plus beaucoup d'utilité, à vrai dire, en l'absence des amplificateurs du module. Les spécialistes des communications tapis à ses côtés s'agitaient nerveusement parce qu'ils avaient perdu le contact avec la bataille. Les bruits de combat s'intensifièrent de l'autre côté des bâtiments. Ils entendirent des cris rauques accompagnant les sifflements stridents des brûleurs et les grondements sourds des lasers lourds ponctués par les zip-zip incessants des armes de poing. Quelque part sur la gauche, Teg entendit l'ahan d'un blindé en difficulté. Un frottement de métal à l'agonie indiquait que les systèmes d'alimentation de l'engin étaient endommagés. Il se traînait au sol, ravageant probablement les plantations ornementales. Aker, l'assistant personnel de Teg, arriva derrière le bachar dans l'allée en courant d'un buisson à l'autre. Stregi s'aperçut la première de sa présence et se retourna brusquement, les mettant face à face. Brun et athlétique, Aker avait d'épais sourcils à présent imbibés de transpiration. Il parla avant d'avoir récupéré son souffle. « Nous avons fini d'encercler les derniers îlots de résistance, Bachar !» Il était obligé de crier pour couvrir les bruits des combats et les grésillements du boîtier com à son épaule gauche, qui déversait son flot de conversations à voix basse, d'instructions urgentes et de commandements hachés. « La périphérie ?» demanda Teg. « Nettoyage dans une demi-heure au plus. Vous ne devriez pas vous attarder ici, Bachar. La mère supérieure nous a recommandé de ne pas vous laisser courir de risques inutiles. » Teg fit un geste en direction de son module endommagé. « Pourquoi n'ai-je pas un poste de communication de réserve ? Un laser a détruit deux engins de secours en même temps, au moment où ils arrivaient.
Ils étaient ensemble ?
Aker baissa la tête devant la fureur du Bachar. Ils ont été.
On ne fait jamais partir en même temps deux véhicules contenant des équipements importants. Je veux savoir qui a désobéi au règlement.
La voix flûtée et calme issue d'un gosier immature avait quelque chose de plus menaçant qu'un coup de gueule.
Oui, Bachar.
D'un ton strictement discipliné, sans que rien laisse savoir si c'était sa faute ou non.
Bon sang.
Dans combien de temps arriveront les nouveaux engins ?
5 minutes.
Faites venir ici mon module de réserve le plus vite possible.
Teg exerça une pression du genou sur le cou de Stretchy. Aker parla avant qu'elle eût le temps de se tourner.
C'est qu'il a été détruit aussi, Bachar.
J'ai donné ordre qu'on en amène un autre.
Teg réprima un soupir. Ce genre de choses arrivait fréquemment au combat, mais il n'aimait pas dépendre de moyens comme rudimentaires.
Nous établirons le PC ici. Faites venir d'autres boîtiers comme.
Au moins, ils avaient une portée acceptable.
Ici ?
Fit Aker en regardant la végétation autour d'eux.
Je n'aime pas l'aspect de ces bâtiments devant nous. Cette tour commande tout le secteur. Il doit y avoir des accès souterrains. Le contraire serait étonnant.
Rien n'est indiqué sur le...
Cette tour ne figure pas sur la carte de ma mémoire. Faites apporter des soniques pour sonder le terrain. Je veux que nos plans des lieux soient mis à jour minute par minute avec des informations sûres.
Le boîtier com de Aker lança soudain un appel prioritaire.
Le Bachar. Est-ce que le Bachar est disponible ?
Stretchy se rapprocha de Aker sans attendre le commandement de Teg. Celui-ci s'empara du boîtier, siffla son code.
Bachar. C'est la panique sur l'air du Nord. Une centaine d'appareils ont essayé de décoller et se sont écrasés contre nos boucliers. Aucun survivant.
Des nouvelles de la mer supérieure ou de sa reine araignée ?
Négatif, impossible de savoir, c'est vraiment la pagaille. Vous voulez voir sur votre écran ?
Faites une transmission et continuez de chercher Audrad.
Je vous dis qu'il n'y a pas de survivant, Bachar.
Il y eut un déclic, suivi d'un bourdonnement sourd. Puis une autre voix annonça « Transmission en cours ». Teg repoussa son codeur d'empreintes vocales de dessous son menton et aboya une série d'ordres rapides.
« Expédiez en vitesse un vaisseau bélier au-dessus de la citadelle. Relayez en permanence les transmissions de l'air du Nord et des autres secteurs où ils ont essuyé des revers, sur toutes les fréquences. Que les honorés matriarches ne ratent pas ça. Annoncez bien qu'il n'y a eu aucun survivant sur l'air du Nord. »
Le double déclic reçu confirmé mit un terme à la communication. Aker demanda « Vous croyez les terrifier avec ça ?»«
Les éduquer. »
Il répéta les mots prononcés par Audrad avant son départ.
« Leur éducation a été lamentablement négligée. »
Qu'était-il arrivé à Audrad ? Il était presque sûr de sa mort. Peut-être avait-elle péri la première dans cette attaque. Elle s'y attendait. « Morte, mais pas perdue. » Si toutefois Murbella était capable de restreindre son impétuosité. Audrad, dans cet instant, avait Teg directement dans son champ de vision du haut de la tour où elle se trouvait. L'Ogno avait annulé le signal qu'elle émettait en interposant l'écran d'un contre-signal et l'avait conduite à la tour peu après l'arrivée des premiers réfugiés de Gameux. Personne ici ne contestait son autorité. Une honorée matriarche morte à laquelle succédait une vivante, c'était quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. S'attendant à être tuée d'un instant à l'autre, Audrad continuait à récolter le plus de renseignements possible tandis que ses gardiens la faisaient monter par un tube à grave. C'était une technologie importée de la dispersion, une espèce de piston transparent à l'intérieur d'un cylindre non moins transparent. Presque pas de mur aux étages qu'il passait. La vue donnait surtout sur des espaces d'habitation et sur des appareillages ésotériques auxquels Audrad attribuait d'instinct un caractère militaire. Les signes de luxe et de confort feutrés augmentaient à mesure qu'ils s'élevaient. Le pouvoir est une ascension aussi bien physique que psychologique. Il se trouvait maintenant au sommet. Une section du cylindre s'ouvrit et un gardien la poussa rudement sur la moquette épaisse qui recouvrait le sol à l'intérieur. La pièce de travail que Dama m'a montrée en bas était encore factice. Elle reconnaissait une volonté délibérée de tout garder secret. Les équipements et le mobilier auraient été presque impossibles à identifier sans les connaissances de Murbella.
Toutes les installations qu'Odrad avait vues jusqu'ici n'existaient donc que pour la parade.
Des villages Potemkin construits à l'intention de la révérende mère.
L'Ognio m'a menti sur les intentions de Dama. Elle voulait me laisser repartir saine et sauve, en possession d'informations sans intérêt.
Quels autres mensonges avait-elle étalés sous ses yeux ?